السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، poursuivons l'étude du livre العبودية, la servitude, du grand savant شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. L'auteur, rahimahullah ta'ala, après nous avoir exposé que al-'ubudiyya et que donc la servitude était de deux sortes, 'ubudiyyatu lil-rububiyya, la servitude dans le domaine de la seigneurie, c'est-à-dire reconnaître qu'Allah est le seul créateur, le seul maître, le seul propriétaire de l'univers, et que rien n'est géré ni administré ni administré si ce n'est par lui, que cette croyance-là était la croyance de l'ensemble des gens et des créatures. Même Iblis lui-même reconnaît qu'Allah est son Seigneur. Reconnaît qu'Allah est son Seigneur. Mais cette simple croyance, reconnaître qu'Allah est le Créateur, le Maître, le Propriétaire, le Géant, n'est pas suffisante pour faire du serviteur un musulman. Tant qu'il ne vient pas avec le deuxième type de servitude, on appelle la servitude dans le domaine de l'adoration. Donc, reconnaître qu'Allah est le seul créateur, le seul maître, le seul gérant et administrateur de l'univers n'est pas suffisant pour faire du serviteur un réel serviteur d'Allah volontaire, un abid, un adorateur d'Allah. Tant qu'il ne vient pas avec ce qui en découle, c'est-à-dire adorer Allah seul d'un culte sincère. Quand tu reconnais qu'Allah est ton seul maître, ton seul créateur, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, tu te dois de l'adorer lui seul d'un culte sincère. Et tant qu'on ne vient pas avec ce point-là, on n'est pas dans la vraie servitude qui fait sauver, ou bien qui fait que la personne est sauvée de l'enfer, dans l'au-delà, et sauvée de l'égarement, dans ce bas-monde. Ceci étant dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, فَمَنْ وَقَفَ عِنْدَ هَذِي الْحَقِيقَةِ وَعِنْدَ شُهُودِهَا وَلَمْ يَقُمْ بِمَا أُمِرَ بِي مِنَ الْحَقِيقَةِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي عِبَادَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأُلُوهِيَّةِ وَطَاعَتِي وَأَمْرِي وَأَمْرِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم كان من جنس إبليس وأهل النار وإن ظن مع ذلك أن من أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذي والتحقيق الذي سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى nous dit, celui qui se contente de cette réalité, de témoigner de cette réalité, c'est-à-dire qu'Allah est le maître de l'univers, qu'Allah est le seul créateur, qu'Allah est le seul géant, et qu'il est unique dans ses œuvres, dans ses actions envers ses créatures, ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya, ce qu'on appelle al-ubudiyyatu lir-rububiyya. Celui qui se contente de reconnaître la seigneurie d'Allah et ne vient pas avec la réalité religieuse, les ordres et les interdits, et ne vient pas avec l'adoration d'Allah d'un culte sincère, en obéissant dans ses ordres, en délaissant ses interdits, en obéissant aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se contente de ça, il reconnaît que Rububiyya. Il ne se soumet pas à la Uluhiyya. Ce dernier, écoutez bien, kana min jinsi Iblis wa ahli an-nar, sera de la même espèce que Iblis, Naam, et les gens de l'enfer. Les gens de l'enfer, parmi eux, Kuffar Quraysh, reconnaissaient la seigneurie d'Allah. Reconnaissaient qu'Allah c'était le créateur, que c'était le maître, le propriétaire. Mais pourquoi pourquoi on les a qualifiés de polythéistes? Parce que, lors de l'adoration et du culte, ils partageaient l'adoration entre Allah et les fausses divinités. Pas parce qu'ils disaient qu'il y a un autre qui peut créer avec Allah, qu'il y a d'autres maîtres et propriétaires avec Allah, d'autres gérant de l'univers avec Allah. Non, ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit ça. Mais ils ont dit que l'adoration doit être partagée entre Allah et les fausses divinités. Car ce sont elles qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah Azzawajal et d'avoir accès à lui. Et même si la personne pense qu'elle fait partie de l'élite des alliés et bien-aimés d'Allah et des gens de la connaissance qui ont atteint l'excellence à un point tel qu'ils ne sont plus concernés par les ordres et les interdits. Ça, c'est ceux qui ont exagéré dans le soufisme, et tout soufisme est exagération. Ils sont arrivés au niveau de dire que leurs awliya, ont atteint la certitude. Et que celui qui a atteint la certitude, eh ben, il n'a plus d'obligation et il n'a plus d'interdit. Donc, il délaisse la salat et il commet toutes les turpitudes et les perversions. En disant que nous ne sommes plus sujets aux ordres et aux interdits. Parce que nous, on est des awliya, on est des rapprochés d'Allah, et on a atteint la certitude. Et on a atteint la certitude. Ces gens-là, comment est-ce que Ibn Taymiyyah les a qualifiés? Kana min asharri ahli al-kufr wal ilhad. Il fera partie des pires personnes dans la mécréance et dans l'égard. Non. Donc ça, c'est une catégorie minime de personnes qui se permettent de dire qu'arrivé à un certain degré d'adoration, tu n'es plus sujet ni aux ordres, ni aux interdits. Donc dans leur mosquée, tu les trouves assis dans les bureaux, les fidèles font salat et eux restent dans le bureau et prient pas. Allahu Akbar. Et si tu demandes, mais pourquoi est-ce qu'ils font pas salat? Je dis, non, lui c'est le grand wali. Grand wali sans salat? A'oudou billah. Et pendant la journée de Ramadan, sa table elle est pleine. Je dis, subhanallah, c'est siyam, tu jeûnes pas? Non, moi j'attends la certitude. A'oudhu billah min al-khidla. A'oudhu billah. Ces gens-là sont égarés. Ils font rire nos enfants. Wallah. Mais chez eux, c'est des awliya. Ils ont une haute place. Chez eux, ils ont une haute place. Et ils commettent tout le haram. Ils commettent tout le haram. Et personne ne s'en étonne. Parce que ce sont soi-disant des awliya. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala d'être sur la voie des gens de la sunna, parce que cela pouvait nous toucher. Mais Allah Azza wa Jal nous a préservés. Allah Azza wa Jal nous a guidés. Allah Azza wa Jal nous a mis sur le chemin des pieux prédécesseurs. Mais sans Allah, wallahi, on aurait pu être avec ces gens-là. Donc remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a préservés de ce grand malheur. Iyadhan billah. Naam. Donc ça, c'est Rulat al-Sufiyya. Naam. Ça, c'est Rulat As-Soufiyya. Taïeb. Et vous voyez ici, même s'il prétend faire partie de l'élite des alliés d'Allah. Ici, il y a une nokta qui est importante. C'est que le din et la place chez Allah, c'est pas avec des prétentions à da'awat. C'est avec al-haqa'iq, al-aqa'id, al-akhwal, al-a'mal. Ta place chez Allah, c'est pas avec des prétentions. Tu peux venir à un entretien et dire « moi, je » et ça passe, alors que tu n'as aucune expérience. Hein? Mais dans le dîn, ça se passe pas comme ça. La prétention, elle n'est pas prise en considération tant qu'on ne voit pas les actes, tant qu'on n'entend pas les paroles. Qu'ont dit les gens du livre? Ils ont dit « Nul ne rentrera au paradis, illa man kana hudan aw nasara. Tilka amani » Les gens du livre ont dit quoi? Nul n'entrera au paradis sans être juif ou chrétien. Ça, c'est leur faux espoir. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Dans le dîn, c'est ça qui fonctionne. C'est pas un tel prétend, un tel prétend. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. La religion de l'islam, c'est une religion de science et une religion d'application. C'est pas une religion de science sans œuvre. C'est pas une religion d'œuvre sans science. C'est la religion du juste milieu. Les œuvres qui reposent sur la science. Et là, il y a un équilibre parfait. Donc, ta place chez Allah Azza wa Jal ne s'obtient pas avec des prétentions. Un autre exemple. وَقَالَتِ الْيَهُودِ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes les enfants d'Allah et ses alliés, ses rapprochés. Allahu Akbar. Ça, c'est des prétentions. Si vous êtes les awliya d'Allah, on va voir le tawhid déborder de votre cœur. sur votre langue, sur vos membres. Si vous êtes les alliés d'Allah Azza wa Jal, c'est bien aimé, et bien vous allez être dans l'obéissance et loin d'eux, des désobéissances. Mais ça n'est pas ce qui est visible. De la même manière, certaines personnes disent, nous on est, nous on est, nous on est. Mais quand on regarde leurs œuvres, c'est pas ça. Quand on regarde leurs œuvres, c'est pas ça. Ou bien elle dit, ana min ahli sunna. Elle dit, moi je fais partie genre de la sunna. Sunna te safiya. Tayyib. Quand tu t'assieds avec lui, ya'kul luhum al-ulama. Il mange la viande des ulama. Yat'an fi ahli sunna wa du'at ahli sunna. Il s'assied avec ahlul bid'ah. Quand on critique ahlul bid'ah, il aime pas. Quand on critique ahlul sunna, il aime. Quand il fréquente, il discute, il sourit, c'est ahlul bid'ah. Mais il peut dire du matin au soir qu'il aime ahlul sunna. Ses œuvres le trahissent. Sa langue le trahit. Ahlul sunna, c'est pas une parole qu'on dit, que tu dis comme ça. Vide et nu de preuves. Non, si tu fais partie de Ahlul Sunnah, t'as une bonne aqida. Si tu fais partie de Ahlul Sunnah, ta ibadah, elle est pour Allah, pas pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Si tu fais partie de Ahlul Sunnah, tu défends les ulama de Ahlul Sunnah, tu les aimes. Si tu fais partie de Ahlul Sunnah, tu aimes tes frères, tu défends leur honneur. Si tu fais partie de Ahlul Sunnah, il y a des signes qui ne trompent pas. Avec qui est-ce que tu t'assieds? Chez qui tu rentres? De chez qui tu sors? Quand tu fais les éloges des ulama, c'est quel ulama? Quand tu vas t'asseoir au pied des ulama, c'est quel ulama? Donc le din, c'est pas avec les prétentions. Le din, c'est pas avec les prétentions. Ou bien il dit, ana talib ilm, ana kada, matin, midi, soir, il étudie pas. Matin, midi, soir, il veut pas le contact avec les chouurs. Quand il y a cours, il va pas étudier. En quoi c'est un talib ilm? Quand il entend hayya as-salah, il prie pas. Ou là, il prie en retard. Tout ça pour dire que, attention aux prétentions, ça n'a aucune valeur chez nous. On marche sur cette règle-là. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Mais ça, en premier lieu, on se l'adresse à nous-mêmes. Nous, on prétend, et on dit, et on affirme qu'on est minah al-sunnah. Ça doit se voir. Ça doit se voir. On n'a rien à prouver aux gens. C'est entre nous et Allah Azza wa Jal. Ensuite, on dit, on est talabat al-ilm. Ça doit se voir. À nouveau, on parle pas des gens. On parle entre nous et Allah Azza wa Jal, ça doit se voir. Combien de temps t'étudies? Combien de temps tu lis? Présentement, actuellement, t'as combien de cours? Tu t'assieds chez qui? Et ainsi de suite. Ainsi, tu vas savoir entre toi et Allah, est-ce que t'es un talibé? Ou est-ce que t'es un goûteur de science et t'aimes la science et t'aimes les gens de science et c'est déjà pas mal? Mais si tu dis tantal, ben, c'est un sens qui est lourd. Ça veut dire que dans ta journée, il y a une part qui est donnée pour Allah dans l'ilm. Et que cette part, elle se traduit en amal. Et que ce amal-là, va se traduire en da'wa. Et qu'il y aura des répercussions difficiles, il faudra patienter et endurer. Ensuite, tu vas reprendre de la science, tu vas reprendre du amal, reprendre de la da'wa, et tu devras endurer à nouveau. Là, oui, t'es sur le chemin tantal. Mais si, quand il y a un cours, tu veux pas aller au cours. Et le lien entre toi et la science, c'est que quand tu es assis en cours et quand tu rentres chez toi, tu poses tes affaires et que tu les rouvres que le jour du cours. En quoi t'as un talbi'il? Barakallahu fikou. Naam. Ensuite, l'auteur nous dit « وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْخَذِرَ وَغَيْرَهُ سَقَطَ عَنْهُمُ الْأَمْرُ الْأَمْرُ لِمُشَاهَدَةِ الْإِرَادَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كان قوله هذا من أشر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من المعنى من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسوله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه وهذه العبادة المتعلقة وهذه العبادة متعلقة بالإلهية بإلهيته تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. ابن تيمية رحمه الله تعالى نجي Et celui qui a comme conviction que Al-Khadir ou autre que lui ont été exempts des ordres. Naam, vous connaissez tous Al-Khadir. Naam, Sahib Moussa alayhi salam, une personne à qui Allah Azza wa Jalla a donné une science que Moussa alayhi salam n'avait pas. On a demandé à Moussa, man a'lamu ahli al-ard, qui est la personne la plus savante de la terre. Il a dit, ana, il a dit moi. Allah Azza wa Jalla lui a révélé qu'il y a un serviteur dans tel endroit à qui on a donné une science que toi tu n'as pas. Alors il a voyagé avec son compagnon et il y avait un signe. Lorsqu'il perdra ou oubliera le poisson, ça sera le lieu de rencontre avec Al-Khadir. Lisez cela dans Suratul Kahf. Lorsqu'il l'a rencontré, il lui a demandé la permission de l'accompagner. Al-Khadir lui a dit, tu ne pourras pas patienter avec moi. Pourquoi? Parce que tu vas voir des choses qui sortent de l'ordinaire. Il lui a dit, Inch'Allah, tu me trouveras en dur. Par la suite, il a suivi Al-Khadir. Al-Khadir faisait des choses qui sortaient de la législation de Moussa alayhi salam, alors il le reprenait dessus. En somme, Al-Khadir a eu la permission de sortir de la sharia de Moussa alayhi salam parce que Moussa alayhi salam a été envoyé à Banu Israël. Or, Al-Khadir ne faisait pas partie de Banu Israël. Pour preuve dans Sahih ou Sahihay, lorsque on a dit Moussa, Al-Khadir a dit Moussa Bani Israël, Moussa de Banu Israël. C'est la preuve de quoi? C'est la preuve qu'il ne le connaissait pas directement et c'est la preuve qu'il n'était pas de son peuple et la preuve qu'il n'a pas été envoyé à lui. Donc Al-Khadir n'était pas sujet à l'obéissance à Moussa et à la soumission à sa législation. Pourquoi? Très simplement. Parce que avant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, chaque prophète est envoyé à son peuple seulement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit 5 choses m'ont été données à moi et à personne d'autre parmi les messagers. Parmi ces 5 choses, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'amma. Les prophètes étaient envoyés seulement à leur peuple. Quant à moi, j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. Donc ça c'est important. Qu'on ne vous dise pas le wali il fait ça parce que c'est un wali. Et regardez la preuve, Al-Khadir n'a pas obéi à Moussa parce que c'est un wali, parce que... Non, vous lui dites Al-Khadir n'a pas obéi, ou bien n'a pas appliqué ce qui était dans la législation de Moussa alayhi salam parce qu'il n'a pas été, parce qu'il ne faisait pas partie de Banu Israël. Donc, le khitab de Moussa, le discours de Moussa ne le concernait pas. Les ordres de la législation de Moussa et ses interdits ne le concernaient pas en dehors de la aqida. Wadih. Celui qui dit qu'on peut sortir de la législation du prophète Mohammed alayhi salat wa salam, comme Al-Khadir est sorti de la législation de Moussa alayhi salam, Naam aura prononcé la parole la plus mécréante de celui qui a mécru en Allah et en son message. Tant qu'il n'entrera pas dans la deuxième sorte de servitude, Al-Abd bima'na al-mu'abbad, Al-Abd bima'na al-abd. Al-Abd bima'na al-mu'abbad, ça c'est tawhid al-rububiyyah. Le serviteur, dans le sens, c'est le serviteur d'Allah, il est soumis à Allah. Il marche que dans son décret. Ça, ça englobe tout le monde. Tout le monde est l'esclave d'Allah de ce sens-là. Personne ne peut sortir de son décret. Mais le mot serviteur, dans le sens adorateur d'Allah, ça concerne Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya, là, c'est un adorateur d'Allah. Il n'adore qu'Allah et nul autre que lui. Il obéit à ses ordres, il obéit aux ordres de son messager. Il s'allie et aime et se rapproche des alliés d'Allah, des croyants pieux. Et il désavoue les autres. Cette adoration-là est rattachée à la divinité, au domaine de la divinité. Cette servitude-là est rattachée au domaine de la divinité, au domaine de l'adoration d'Allah Ta'ala. C'est pour cela que l'emblème du Tawhid et son titre, c'est quoi? C'est La ilaha illallah. Et l'ilah, ça signifie quoi? Al-ma'boud. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah. Il n'y a pas de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah. Et non pas, il n'y a pas de Seigneur si ce n'est Allah. C'est pas ça le sens de la ilaha illallah. Parce que le mot el-ilah signifie el-ma'lou, el-ma'boud. Le mot « ila » signifie « celui qui est adoré ». Celui que les cœurs visent par la servitude, celui qui est adoré avec amour et vénération. Donc le sens de la ilaha illallah est nulle divinité ne mérite véritablement d'être adoré si ce n'est Allah. Contrairement au simple fait de reconnaître la seigneurie d'Allah sans l'adorer d'un culte sincère ou reconnaître la seigneurie d'Allah puis adorer Allah et adorer autre avec lui. Tout cela n'entre pas dans le tawhid de l'adoration. Il faut absolument deux choses. Premièrement, la ilaha, qui consiste à renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. C'est une négation totale et absolue. La deuxième chose, illallah, c'est une affirmation spécifique et particulière du droit à l'adoration que pour Allah. Ça n'est qu'ainsi que le tawhid est concrétisé. Avec ces deux piliers-là, la négation, la ilaha, l'affirmation, illallah. La négation de quoi? La ilaha, la négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Illallah, l'affirmation. L'affirmation de quoi? Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Tant qu'on ne vient pas avec ça, on n'est pas un abid, on n'est pas un adorateur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On peut être un serviteur d'Allah, mais on n'est pas un adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc je répète, Al-Khadir ne fait pas partie de Banu Israël. Parce que lorsque Moussa a passé le salam, Al-Khadir a dit « Wa anni ou anna bi ardika salam fa qala ana Moussa qalu Moussa Bani Israël qala na'a » Taïb. Aussi, il y a un passage dans le hadith qui montre que Al-Khadir n'était pas de Banu Israël. Qui est que, comme dans ce hadith, hadith dans le Bukhari Muslim, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas selon Ka'b, Ubay ibn Ka'b. Donc il a le plus haut degré d'authenticité. Al-Khadir a dit, Ya Moussa, inni ala ilmin min Allah, allamanihi la ta'alamahu ant. Wa anta ala ilmin allamaka, ou allamakahu la a'alamahu. Il lui a dit, oh Moussa, je suis sur une science qu'Allah m'a enseignée que toi tu ne connais pas. Et toi tu es sur une science qu'Allah t'a enseignée et moi je ne connais pas. Or, quand tu es un prophète, toute la science que tu connais, c'est ce qu'il connaît lui, subhanallah. Tu vas pas connaître des choses que le prophète lui-même recevant la révélation d'Allah va ignorer. Et cela nous amène à une question, c'est, Hal il-Khadir Nabi, est-ce que Al-Khadir c'est un prophète ou pas? Les savants divergent quatre avis. Le premier avis, c'est de dire que oui, c'est un prophète. Le deuxième avis, c'est de dire que, plus encore, c'est un rasoul, c'est un niveau au-dessus. C'est un messager. Le troisième avis, c'est de dire que c'est un wali. C'est pas un prophète, mais c'est un wali, c'est un serviteur pieux. C'est un serviteur pieux qui avait un haut degré, mais il n'a pas été prophète. Le dernier avis, c'est de dire que c'est un malak, que c'est un ange. Ah, c'est les quatre avis mentionnés chez nos savants. Naam. Beaucoup de savants ont dit que l'avis prépondérant, c'était de dire que c'était un wali. Naam. Beaucoup de savants ont dit que l'avis prépondérant était de dire que c'était un wali. Ibn Taymiyyah a même dit dans certains de ses ouvrages, Wallahu alam, que c'est l'avis de l'jumhur. Et c'est l'avis de la plupart des savants. Cependant, d'autres savants ont dit non, c'est un prophète. Et que c'est plutôt ça l'avis de la plupart des savants, que c'est un prophète. Et c'est l'avis prépondérant chez beaucoup de nos grands savants, anciens et contemporains, historiens et autres, Mufassiroun comme Ibn Kathir, comme Al-Qurtubi, et plus proche de nous, Ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, dans Adwa al-Bayana, il a bien détaillé ce point-là jusqu'à arriver à ce résultat, que Al-Khadir est un prophète, alayhi salam. Taïb. Ensuite, Al-Khadir, est-ce qu'il est toujours vivant ou pas? Naam, est-ce qu'il est toujours vivant ou pas? Taïb. Ce sur quoi il n'y a pas de doute, c'est qu'il est décédé. Et vous connaissez tous Nawaqid de l'islam, les annuatifs de l'islam. Et parmi les annuatifs, le neuvième, Naam, qui consiste à voir la permission de sortir de la législation du prophète Mohammed alayhi salat wa salam, comme El-Khadir a pu sortir de la législation de Moussa alayhi salam. Taïb, ça c'est du kufr sans divergence. Taïb, l'auteur nous dit, il faut absolument rentrer dans la deuxième sorte de ubudiyya. C'est quoi cette deuxième sorte? C'est Tawhid al-Uluhiyya. C'est al-Uluhiyyatu lil-Ubudiyya. C'est de devenir un abid. C'est-à-dire adorer Allah seul d'un culte sincère. Taïb. Il y a deux ubudiyya, il faut absolument connaître les deux. Il faut être capable de les discerner, mais le musulman, il doit absolument réunir les deux. C'est-à-dire reconnaître qu'Allah, c'est le maître de l'univers et reconnaître que c'est le seul qui mérite de l'adoration, alors on l'adore. Voilà. Faut réunir les deux, mais il faut distinguer les deux pour savoir qui est le musulman et qui est celui qui n'est pas musulman. Barakallahu fikum. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, فالإله هو الذي يألأه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. C'est quoi la définition de la divinité? En résumé, la divinité, une divinité, c'est tout ce qui est adoré. Tout ce qui est adoré, c'est une divinité. Que ce soit un homme, que ce soit un ange, que ce soit une pierre, que ce soit un animal, dès que c'est adoré, en arabe, on appelle ça ilah, divinité. Ceci étant dit, Al-Aliha se divise en deux. Les divinités ensuite se divisent en deux. Allati ubidat bil batil ou allati ubida bil haqq. Les divinités se divisent en deux. Ceux qui sont adorés faussement et injustement. Et la seule divinité qui est adorée en droit de l'être. C'est Allah Azza wa Jal. Et tout le reste, c'est adoré faussement et injustement. Allah nous dit dans le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. Dans l'autre verset, وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Ceci est car Allah est la vérité. Et ce qu'ils adorent en dehors de lui, le faux. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Non. Donc la divinité, c'est ce que le cœur adore avec la perfection de l'amour et de la vénération. Avec la perfection de l'amour et de la vénération, de la considération, avec crainte, avec espoir, et ainsi de suite. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاه وبها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله. Cette adoration, c'est celle-ci qu'Allah aime et agrée. C'est-à-dire la servitude qui consiste à adorer Allah seul d'un culte sincère. C'est ça qu'Allah aime. Pas le simple fait de reconnaître que c'est le Créateur et ensuite adorer autre que lui ou ne pas l'adorer. Cette adoration, dans le sens cette servitude, c'est celle-ci qu'Allah aime et agrée. Et par celle-ci, il a décrit les serviteurs qu'il a élus. Et c'est avec cela qu'il a envoyé ses messages. وَأَمَّا الْعَبْدُ بِمَعْنَى الْمُعَبَّدِ سَوَاءٌ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَأَنْكَرَ فَهَذَا الْمَعْنَى يَشْتَرِكُ فِي الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ. Quant à au serviteur, dans le sens l'esclave, celui qu'il reconnaisse cela ou ne le reconnaisse pas, sachez que ce sens-là sont unis dessus le croyant et le mécréant. En d'autres termes, ça ne suffit pas de reconnaître qu'Allah est le créateur. Parce que cette croyance-là, tout le monde l'a. Même ceux qui ne sont pas musulmans. Même ceux qui ne sont pas musulmans. Taïb. Allah Azza wa Jalla a décrit ses serviteurs pieux en disant qu'ils étaient des adorateurs. Les anges, il les a décrits ainsi. Les prophètes et messagers les a décrits ainsi. Naam. Les gens du paradis, il les a décrits ainsi, comme on a vu dans des versets précédents. L'auteur nous dit, et c'est avec cela qu'il a envoyé ses messagers. C'est-à-dire inviter les gens à la ilaha illallah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et dans chaque communauté, on envoie un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah. Éloignez-vous du ta'out. De manière plus explicite, dans Surat Al-Anbiya, « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. » Et nous n'avons pas envoyé de message avant toi, si ce n'est en lui révélant, « Nulle divinité n'est digne d'être adorée, si ce n'est moi, adorez-moi donc. » Donc c'est avec ce message que sont venus tous les prophètes et tous les messagers. Et lisez Surat Al-A'raf, chaque prophète, chaque messager venu à son peuple et disait, Ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Au peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité. C'est-à-dire digne d'être adoré en dehors de lui. Na'am. Ensuite, il nous dit que s'unissent dans cette croyance de Rububiyya, la Seigneurie, le croyant et le mécréant. Ensuite, parmi les mécréants, certains le disent, na'am, et certains se disent athées, c'est-à-dire ils ne croient pas en l'existence d'un créateur qui a fait exister l'univers. Na'am. Donc certains parmi eux reconnaissent l'existence d'un seigneur créateur, et certains parmi eux ne reconnaissent pas cela. Mais quand bien même la volonté d'Allah s'applique sur eux, ils ne peuvent pas sortir de son décret, et ce sont des esclaves d'Allah, de plein gré ou de non gré. Taïb. Après cela, il nous dit وبالفرق بين هذين النوعين يعرف أو يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها الله ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي من اكتفى بها لم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. تيمية رحمه الله تعالى نجي. La différence qu'il y a entre ces deux réalités. La réalité religieuse et la réalité universelle. La différence entre ces deux réalités, ces deux sortes, se réalise à travers la connaissance des deux réalités religieuses dans laquelle entre le serviteur d'Allah dans sa religion, dans ses ordres religieux. Qu'Allah aime, et il s'allie, il voue amour et rapprochement à ceux qui sont sur ce chemin-là. Allah va les honorer en les faisant entrer au paradis. Ça, c'est une première réalité. C'est la réalité de ceux qui ont reconnu la ilaha illallah, ont alors adoré qu'Allah, et ont désavoué le polythéisme et ses adeptes, et rentreront au paradis. Qu'Allah nous joigne à cela. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر. La réalité universelle. C'est-à-dire d'être un esclave d'Allah. Tout le monde rentre dans ça. C'est universel. La réalité universelle s'unit dedans le croyant comme le mécréant, le pieux comme le pervers. Et celui qui se contente de cette réalité-là, d'être un esclave d'Allah, sans entrer dans la deuxième réalité, c'est-à-dire être un adorateur d'Allah, en l'adorant seul d'un culte sincère, écoutez bien, il fera partie des suiveurs d'Iblis le maudit. Celui qui se contente de dire Allah, c'est mon maître, mon seigneur, mais il ne l'adore pas d'un culte sincère, il ne lui obéit pas, il ne suit pas la voie de son messager, il sera avec qui? C'est un suiveur de qui? C'est un suiveur de Iblis le maudit. C'est un suiveur de Iblis le maudit. Et il fait partie de ceux qui ont mécru au Seigneur de l'univers. Quant à celui qui se contente de certains points de la divinité, de l'adoration d'Allah et de son obéissance, et qui en délaisse d'autres, donc il est rentré dans la ilaha illallah. Cependant, il a des lacunes. Dans certains domaines, il est obéissant. Dans certains domaines, il est désobéissant. Que nous dit Ibn Qayyim sur lui? Il nous dit, il entre dans certains domaines, non. Dans certaines situations, il est obéissant. Dans certaines autres situations, non. Il nous dit, celui-ci aura une baisse de foi et d'alliance avec Allah et son messager en fonction de la baisse qu'il a eue dans la réalité religieuse. En somme, celui qui obéit à Allah partiellement, il est partiellement pieux. Il est partiellement croyant. Il est croyant avec une foi faible. Naam. Donc, en fonction de ce dans quoi il obéit à Allah, il est croyant. Et en fonction de ce dans quoi il désobéit à Allah, il a une faiblesse de foi. Ça, c'est le juste milieu. Contrairement à la secte de l'Khawarij, qui font sortir de l'islam le musulman pour tout grand péché. Et disent que dans l'au-delà, il s'éternise en enfer. Et aux antipodes, l'autre extrême, Al-Murji'a, qui eux disent, à partir du moment où il est croyant, rien ne lui nuira comme péché. Ça n'affectera pas sa foi. Quels que soient les péchés qu'il fait, eh ben, il aura une foi complète et parfaite. Dès lors qu'il reconnaît Allah Azza wa Jal et a dit, La ilaha illallah. Ces deux sectes-là sont égarées. Et le juste milieu, c'est la voix des gens de la Sunna, c'est de dire qu'on ne fait pas sortir le musulman pour tout péché. Cependant, quand il tombe dans des péchés, ça diminue sa foi. Ça diminue sa foi. Et aucun musulman, quels que soient ses péchés, tant qu'il reste en islam, ne s'éternisera en enfer. Mais attention, il peut y entrer par la justice d'Allah Azza wa Jal, mais il finira par en sortir par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal du fait qu'il l'a fait mourir sur le tawhid. Aucune personne qui est sur le tawhid s'éternisera en enfer. Wal'iyadhu billah. Ensuite, donc, pour résumer ce passage-là, il faut retenir deux points. Il y a al-haqa'iqul kawniyya, les réalités universelles. Naam. Ce qui nous est demandé, c'est la reconnaissance. Allah, c'est le seul créateur, c'est le maître de l'univers. Tout le monde est assujetti à son décret. Ça, le reconnaît tout le monde. À peu près. La deuxième réalité, al-haqa'iqud diniyya, les réalités religieuses. Ce qui est demandé ici, c'est d'obéir à Allah dans ses ordres, et de délaisser et d'obéir à Allah concernant ses interdits, s'en éloigner. Et c'est pour cela que si on médite, on peut dire que le tawhid est de deux sortes. Al-tawhid al-ilmi, tawhid al-ma'rifa, et tawhid ماذا العملي الطلبي. Donc, la première sorte de tawhid, c'est la connaissance. C'est la science. Ce qui nous est demandé, c'est d'y croire, de le reconnaître. D'accord? Qu'Allah est unique dans ses actes envers ses créatures. C'est le seul créateur, le seul maître, le seul gérant, propriétaire, administrateur. Et qu'il a la perfection absolue dans tous ses noms, tous ses attributs. Ça, c'est tawhid al-ma'rifati wal-ithbat. Wadah. Ensuite, on a un autre tawhid. Al-amali, al-talabi. Où il nous est demandé d'agir en fonction de cette première conviction. Et les ulama, après avoir lu le Coran et étudié les textes, se sont rendus compte qu'on pouvait faire entrer le tawhid dans ces deux catégories. Quant à la première, Allah Azza wa Jal nous dit, à la fin de suratou al-talaq, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الله عز وجل est celui qui a créé les sept cieux, pareillement pour les terres, c'est-à-dire sept. L'ordre descend entre les deux. D'accord? Allah a tout fait. Pourquoi? لتعلم. Pour que vous sachiez. Donc ils ont dit توحيد المعرفة والإثبات. لتعلم. Pour que vous sachiez. أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Qu'Allah est parfaitement omnipotent sur toute chose, c'est-à-dire qu'il est capable, et que de sa science il embrasse tout. Ça c'est tawhid al-ma'rifati wal-ithbat. Allah Azza wa Jalla a tout créé pour qu'on le connaisse. Ça c'est le premier type de tawhid. طيب dans suratou, à la dernière page de suratou al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes. À nouveau, on parle de quoi? Al-Khalq, la création. C'est une œuvre d'Allah, c'est un acte d'Allah. Pourquoi? Illa li'abudu, que pour qu'il m'adore. Là, c'est quel tawhid? Là, c'est al-amali, al-talab. C'est le tawhid où on te demande d'agir, où on te demande d'œuvrer. Donc, tu dois connaître Allah Azza wa Jal pour l'adorer. C'est aussi simple que ça. Et tu réunis les trois types de tawhid qu'on peut dire, qu'on peut séparer ainsi. Tawhid al-rububiyya, توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. Le premier et le dernier, c'est ça توحيد المعرفة والإثبات. Celui du milieu, c'est ça توحيد الطلبي. نعم. وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق التوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي لا يعلم السر إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit une parole azima ici. Il nous dit, et cela, ce domaine-là, beaucoup se sont trompés dedans. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé entre eux tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya. Le tawhid de la connaissance et le tawhid de la mise en pratique. Ils ont mélangé ça et ils se sont trompés d'une manière grotesque. Et beaucoup se sont retrouvés dans l'ambiguïté au moment de l'acheminement. C'est-à-dire l'acheminement dans ce bas monde vers Allah et la demeure de l'au-delà. Et beaucoup de pieds ont glissé. Pourtant, soi-disant, parmi les grands chouyours, ceux qui prétendent être les grands savants, les grands chouyours, et ceux qui ont concrétisé le tawhid, les grands connaisseurs, ces gens-là sont perdus, sont égarés, ils ont glissé, et ne connaît leur nombre de ces gens égarés-là que Allah, celui qui connaît les choses cachées, les choses apparentes. Donc, Ibn Taymiyyah nous dit que cette affaire, elle est très grave. C'est que beaucoup de gens qu'on prétend être des grands savants, ils ont même pas compris la ilaha illallah, ils ont même pas compris le but de la création et le sens de la ilaha illallah. Et ils se sont trompés dans cette chose aussi importante. Et pourtant, on prétend d'eux qu'ils sont quoi? Les grands chouyours. Et de là, à nouveau, tu comprends que c'est pas avec des prétentions. Hein? T'entends des gens dire les grands savants, un tel est grand savant. À partir du moment où il est pas sur la ilaha illallah, Mohammed Rasulallah l'applique pas. Ça, c'est pas un grand savant, sauf un savant de l'égarement. Sauf un imam de l'égarement. Wadah. Sauf un imam de l'égarement. Non. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils reconnaissent la réalité universelle. Allah, c'est le Seigneur des mondes. Et que rien ne bouge dans son royaume sans son décret et sa permission. Naam. Mais ils ne reconnaissent pas la réalité religieuse qui est demandée. Qu'est-ce qui va se passer si une personne, elle reconnaît la réalité universelle mais pas la réalité religieuse? Elle reconnaît pas les ordres, les interdits, les adorations. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va pas agir. Elle va se contenter de dire oui, c'est comme ça. Mais elle va se permettre de désobéir à Allah. Elle va se permettre de ne pas lui obéir. Parce qu'il n'a pas présent à l'esprit la réalité religieuse. Donc, il ne va pas faire d'effort dans l'adoration. Il ne va pas faire d'effort dans le délaissement des péchés. Il ne va pas faire d'effort pour être endurant sur le bon chemin. Tout cela, il le délaisse. Il se contente de quoi? De reconnaître qu'Allah est le créateur. Ça, ça a des conséquences dévastatrices dans l'adoration du serviteur. C'est pour cela que les ulama disent que la aqidah, c'est le plus important. Parce que quand le cœur est propre, quand la croyance est saine, découlera de cela et naîtra de cela les meilleures des œuvres. Avec constance. Les meilleures des œuvres avec constance. Non. Et un autre point dans ce sujet, c'est que certaines personnes pensent que tout ce qui se passe dans l'univers, c'est qu'Allah l'a aimé. Ils mélangent la volonté universelle, qui est le décret de toute chose, et la volonté religieuse, législative, qui est l'ordre divin, législatif, religieux. Al-iradatul kawniyya, la volonté universelle, c'est tout ce qui se passe. C'est le décret. C'est mashiatullah. D'accord? C'est tout ce qui se passe. À partir du moment où ça se passe, tu le classes dans al-iradatul kawniyya, la volonté universelle. C'est le qadar. Dans ça, il y a ce qu'Allah aime comme ce qu'Allah n'aime pas. Mais tout cela, il l'a voulu pour une sagesse. Avec science. C'est clair? Ensuite, on a l'iradatu shar'iyya. On a la volonté religieuse. C'est tout ce qu'Allah a légiféré. Tout ce qu'il a ordonné. Ça englobe que ce qu'Allah aime. Mais, ça peut ne pas se réaliser. Allah aime le tawhid et aime la piété. Est-ce que tout le monde est pieux? Est-ce que tout le monde est sur le tawhid? Non. Allah l'a voulu? Oui. Allah l'a ordonné? Oui. Est-ce que ça se réalise forcément? Non. Par contre, la volonté universelle, Allah l'a voulu, mais il l'aime pas forcément et ça se réalise toujours. Wadah? Fayyib. Certains ont mélangé entre les deux, ça a ramené des catastrophes. Ils ont pensé que tout ce qui se réalisait, c'est qu'Allah l'avait aimé. Ça s'est réalisé, Allah l'aime. C'est quoi la conclusion de leur histoire? C'est qu'Allah aime les péchés. Si Allah aime les péchés, moi, je dois aimer tout ce qu'Allah aimait. Donc, j'aime les péchés, donc je fais. Vous avez compris les catastrophes dans ce tafsir. Subhanallah, les fondements de la croyance, c'est extrêmement important. Parce qu'un khalal dans les fondements de la croyance, ça peut amener des actions catastrophiques. Quel est le processus qui a amené Al-Jabriya à être où ils sont allés? C'est quoi le processus? C'est celui-ci. Tout ce qui se passe, c'est qu'Allah l'a voulu. Tout ce qu'Allah a voulu, c'est qu'il l'a aimé. Moi, je dois aimer tout ce qu'Allah aime. Il y a des péchés qui ont été décrétés, c'est qu'Allah les a voulus, c'est qu'il les a aimés. Moi, j'aime les péchés. Alors, ils sont dans la perversion. Vous avez compris? Et pour eux, tout ce qu'ils font, Allah l'aime. Que ce soit bien, que ce soit mal, que ce soit. A'oudhou billah. Que ce soit les pires du haram, pour eux, Allah l'aime. Donc, ils sont tombés dans ce tourbillon de haram. Na'am. Donc, je répète la remarque. Tout ce qu'Allah décrète n'est pas forcément aimé auprès de lui, mais l'a décrété pour une grande sagesse avec science. Peut-être, il peut l'aimer, il peut ne pas l'aimer. Taïb. La secte de Al-Jabriya. Al-Jabriya, le mot Al-Jabr, c'est le fait d'être contraint à. Na'am. D'être contraint à. Comme si on n'avait pas de volonté, de libre arbitre. Ils ont confondu, dans le sens mis comme synonyme, al-irada et al-mahabba. La volonté et l'amour. Pour eux, c'est la même chose. Alors, ils se sont égarés. Pour eux, tout ce qui se passe sur la terre, c'est qu'Allah l'a aimé. Donc, eux, ils disent qu'ils aiment Allah. Donc, ils vont aimer tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, ils aiment le haram. Il faut donc absolument faire la distinction entre l'iradatu shar'iyya et l'iradatu kawniyya. Après cela, l'auteur nous dit wa ila hadha ashara ash-shaykh Abdul Qadir rahimahullah fi ma dhukira an fa bayyana lana katiran min ar-rijal idha sallu afwan idha wasalu ila al-qada' wal-qadar amsaku illa ana fa inni in fatahat li fihi rawzanatun فنازعت أقدار الحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر والذي ذكره الشيخ رحمه الله والذي أمره الله به رسوله عفوا والذي أمر الله به ورسوله نعم ولكن كثير من الرجال غالطوا فيه. طيب. Ici, la parole du shir a besoin d'éclaircissement. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, et c'est à cela qu'a fait allusion el shir Abdul Qadir. Il s'agit de el Jailani. Naam, faisait partie des savants. Asset, pieux. Naam. Et beaucoup d'histoires fantastiques à son sujet sont rapportées et fausses. Naam. Il a dit, selon ce qu'on rapporte à son sujet, beaucoup d'hommes, lorsqu'ils arrivent au sujet du qada et du qadar, s'abstiennent de parler, sauf moi. Naam. Il y a un hadith qui dit, d'adukira al-qadar fa'amsiku. Quand on mentionne le qadar, abstenez-vous. Abstenez-vous. Mais là, il s'agit pas de ça ici. Abstenez-vous de parler dans la sagesse d'Allah Azza wa Jal et pourquoi et ceci. Mais là, c'est pas ça le sens de cette parole. Eux s'abstient. C'est-à-dire quand, par exemple, ils tombent dans des péchés et qu'ils sont conseillés, ils disent c'est le qadar. Vous avez compris? Ils s'abstient, ils font pas d'efforts, ils font pas d'efforts pour sortir du péché, pour se repentir. Hein. Ils disent c'est le qadar, ils se soumettent. Et quand ils sont dans une difficulté, ils disent c'est le qadar, ils se soumettent, ils arrêtent de faire des efforts et des causes. Vous avez compris le sens? Donc ça, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Quand tu as une épreuve, tu dois te soumettre, tu fais rien, aucun effort. Tu tombes dans un trou, tu restes dans le trou. Tu es dans le péché, tu restes dans le péché. Ou bien tu vas combattre ton âme. Tu vas faire dua, tu vas faire les causes pour te réformer, pour sortir du péché, pour te repentir. Donc c'est ça le sens ici. Il nous dit que beaucoup de ces gens-là, quand il s'agit du qadar, na'am, quand il s'agit du qadar, ils s'abstiennent. Sauf moi. Na'am, sauf moi. Il dit, je vais disputer ce qui a été décrété en vérité par la vérité. Wadah. Ce mal qui m'a été décrété, ce péché qui m'a été décrété. Eh ben, moi, je vais faire les causes pour en sortir et cela aussi m'aura été décrété. Donc l'âme, c'est qui? C'est celui qui dispute le qadar. Vous avez compris dans quel sens? C'est-à-dire que lorsqu'il tombe dans un mal ou une épreuve, il se bat, il endure, il tente de sortir du trou. Et il ne dit pas c'est le qadar et bon et je suis d'accord. Khala, je suis dans mon péché, je reste dans mon péché. Je suis dans mon malheur, je reste dans mon malheur. Non. Taïb. Donc je cite un exemple qui a été cité. La personne tombe dans un péché, elle ne doit pas dire cela m'a été décrété et qaddar Allah, il reste dans le péché. Il n'a pas le droit d'utiliser le destin pour valider son péché. Ça c'est faux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire les causes. Il doit faire les causes qui lui ont été légiférées. Comment est-ce que la parole a été dite ici? فَنَازَعْتُ أَقْدَارَ الْحَقِّ لِلْحَقِّ فَنَازَعْتُ أَقْدَارَ الْحَقِّ C'est-à-dire, الْحَقِّ ici c'est Allah. Un des noms d'Allah, الْحَقِّ أَنْتَ الْحَقِّ Comme dans le hadith. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ الْحَقِّ Dans le Coran. Donc, l'ilhaq, pour la vérité, pour la religion, pour la législation. Donc, en somme, je tombe dans la faute, je tombe dans le péché, je reste pas comme ça. Et dire, qaddar Allah ma shafa'al. Ça, c'est faux. On n'a pas le droit de prétexter la prédestination face au péché. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce qu'Allah nous a légiféré. Le regret, al-istighfar, le repentir, la correction, l'amélioration. Celui qui fait ça, c'est lui qui aura obéi à Allah et à son messager, comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il doit céder d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire disparaître le mal qui lui a été décrété, pour obtenir le bien qui lui aura été décrété. Il va repousser la bid'a avec la sunna, le shirk avec le tawhid, la désobéissance avec l'obéissance. Comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans Majmu' al-Fatawa, le huitième tome. Fayyum. Et ici, il y a une grande règle sur laquelle on va finir. C'est, il est interdit d'utiliser la prédestination pour valider ses péchés. C'est-à-dire que la personne fait du haram et quand elle est conseillée, elle dit quoi? Qaddar Allah. C'est Allah qui a décrété ça. C'est interdit d'argumenter en utilisant le décret alors que la personne est dans le péché. Vous avez compris? Alors qu'elle est dans le péché. Donc, le qadar, il s'utilise pour quoi? Pour al-musiba, pour le malheur. Yuhtajju bil qadar fil masa'ib, la fil ma'aib. Yuhtajju bil qadar fil masa'ib, la fil ma'aib. On utilise le qadar dans les maux, le malheur. Pas dans les défauts, les péchés. Wadih? Il vole, il est pris du qadar Allah. Hein? Il a été raconté qu'un homme a volé. Et que Omar al-Khattab a appliqué le jugement d'Allah Azza wa Jal sur lui. Il lui a dit, comment tu vas me faire ça alors que c'est le qadar d'Allah? Il lui a dit, toi t'as fait ça avec le qadar d'Allah? Wallahi, t'as raison. Eh ben, nous, on va te faire ça aussi avec le qadar d'Allah. Vous avez compris? Lui, il a volé. Naam, Omar al-Khattab, il lui a appliqué le jugement en islam. Dans son cas, à lui, précisément. Il a dit, comment tu peux me faire ça alors que ça, c'est Allah qui a décrété? Il lui a dit, t'as raison. Comment on peut te faire ça alors que c'est Allah qui a décrété? Tu vois ce que t'as fait là? Tu l'as fait, c'est Allah qui l'a décrété. Oui, mais nous ce qu'on va te faire aussi, c'est Allah qui l'a décrété. Wadih? Subhanallah. Et si quelqu'un venait voler chez lui, et il dit, mais c'est le qadar, est-ce qu'il va accepter cet argument? Jamais va accepter cet argument. Hein? Donc, on répète, al-ihtijaj ala dhunubi bil qadar batil. Utilise, argumenter avec le qadar, c'est le destin, c'est la prédestination. Pour les péchés, c'est faux, c'est caduque, c'est haram. On l'utilise dans le masa'ib, pas le ma'aib. Barakallah fikoum. Non. Walakin kathiruna rijal ghalitu fi. Mais beaucoup de gens se sont trompés dans ce sujet. Fa'innam qad yashhaduna ma yuqaddiru ala hadi min al-ma'asi wa al-dhunub. Wa aqwa aw ma yuqaddaru ala al-nasi min dhalik. Bal من الكفر ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضاءه وقدره داخل في حكم ربوبية ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك موافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة
فيضاهي أولى المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما شركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. طيب ابن تيمية nous dit ces gens-là se concentrent sur la prédestination qui a été appliquée sur l'un d'entre eux quand il a commis des fautes et des péchés. Il dit, c'est le qadar, il se concentre sur ça. Ou ce qui a été décrété sur les gens, même quand c'est de la mécréance, ils se disent, ou ils disent, ils attestent et témoignent, que tout cela a eu lieu par la volonté d'Allah et son décret. Et que tout cela rentre dans le jugement de sa seigneurie. Et que ça découle de ce qu'il a voulu. Et ils pensent alors, et c'est là le gros, plus gros du problème, que de se soumettre à ça, c'est être en concordance et être d'accord avec ce qu'Allah a voulu. Vous avez compris? Il y a un mal, il a fait le mal, il dit, bah moi j'accepte, je suis pieux. Allah, il a voulu ça pour moi, je reste dans ce haram-là. Et vu que Allah, il a voulu, et que moi je le fais, et ben moi je suis pieux, parce que je fais ce qu'Allah a voulu de moi. Vous avez compris l'ambiguïté? Satanique. Plus encore, il dit que c'est ça agréé, c'est ça l'agrément. Et Allah sera satisfait de moi. Ou bien lui, il agrée ce qu'Allah a voulu pour lui. Et il dit ça, c'est la religion, et c'est le bon chemin, et c'est l'adoration. En faisant cela, ils ont une ressemblance avec qui? Avec les polythéistes. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans Sourate Al-An'am, sur la traduction? Si Allah l'avait voulu, nous n'aurions pas commis le polythéisme, ni nous, ni nos ancêtres. Et on n'aurait jamais rendu illicite certaines choses. Et des pratiques païennes. Ça, c'est dans Sourate Al-An'am, dans Sourate Yassi. Est-ce qu'on va nourrir si Allah l'avait voulu, il les aurait nourris. Allahu Akbar. Tu dis aux gens de nourrir autre, qu'est-ce qu'il répond? Si Allah avait voulu, il les aurait nourris. Subhan al-Malik. Naam. Donc ils utilisent le qadar pour ne pas faire le bien et pour rester dans le mal. Ça, c'est la voie des polythéistes. Dans Surat al-Zukhruf, si le tout miséricordieux l'avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils utilisent le qadar, hein, pour ôter leur responsabilité du haram jusqu'au shirk. Se cache derrière le qadar jusqu'au polythéisme. وَلَوْ هُدُوا لَعَلِمُوا أَنَّ الْقَدَرَ أُمِرْنَا أَن نَرْضَى بِهِ وَنَصْبِرَ عَلَى مُوجِبِ مِنَ الْمَصَائِبِ الَّتِي تُصِيبُنَا كَالْفَقْرِ وَالْمَرَضِ وَالْخَوْفِ. Et s'ils avaient su, s'ils avaient été guidés à la science, ils auraient su que la prédestination, ce qui nous a été ordonné, c'est d'en être satisfait. Naam. On doit être satisfait d'Allah. Quant à la satisfaction du malheur en soi, ça c'est recommandé. Mais être satisfait qu'Allah c'est notre créateur et qu'Allah fait ce qu'il veut, que tout ce qu'il fait est bon, ça c'est obligatoire. Mais d'être satisfait, d'être touché par le malheur, ça c'est mustahab. L'obligation c'est quoi? C'est sabr. C'est quoi la différence entre sabr et rida? Sabr, c'est le fait de supporter le malheur en n'ayant aucune mauvaise opinion d'Allah. Mais c'est amer pour nous. On n'aime pas. On aimerait en sortir et ne pas en avoir été touché. Mais on ne dit aucune mauvaise parole, on ne fait aucune mauvaise action et on retient notre cœur de penser du mal. Ça, c'est quoi? C'est sabr. Al-rida, pareillement, il dit aucune mauvaise parole, aucune mauvaise opinion d'Allah, aucune mauvaise action. Mais lui, il est satisfait de ce qu'Allah lui a mis. Il ne souhaite pas en sortir. Il est bien dedans. Tellement il a une croyance qui est forte et qu'il sait que ce qu'Allah a fait pour lui, c'est le mieux. Et il n'y avait pas mieux à faire. Eh bien, il est satisfait de ce qu'Allah lui a décrété. Et son cœur, son âme ne se dispute pas avec lui. Il n'a pas besoin de la maîtriser pour qu'elle se soumette à ce qui lui arrive. Non, il est satisfait d'être dedans. Vous avez compris ou pas? À l'image d'un homme qu'on a jeté dans l'eau froide et il doit rester dedans, il supporte comme ça. Il parle pas, il agit pas, il a pas de mauvaise opinion de celui qu'il a jeté dedans. Voilà, son entraîneur de tel sport bizarre. Vous avez compris ou pas? Le deuxième, il a tellement confiance en son entraîneur. Et il a tellement vu les effets sur les grands champions que lui, quand son entraîneur le jette dedans, il voit qu'il lui fait un grand bien. Vous avez compris ou pas? Donc quand il est dans cette eau froide, il se tranquillise dedans à un point tel qu'il souhaite même pas en sortir. Le premier cas, c'est l'exemple de quoi? Al-sabr. Le deuxième, c'est l'exemple de quoi? Al-rida. Les deux sont dedans ou pas? Les deux sont dedans. Mais l'état de leur cœur, il a rien à voir. Sahalala. Taïeb. Le premier veut faire la guerre, mais il se retient.
Le deuxième, il est satisfait. Parce qu'il voit que c'est le bien qu'on lui fait et il voit les conséquences. Non? Et ça, tu pourrais le citer, tu pourrais ne pas trouver meilleur exemple que l'éducation des enfants. Non? Certains enfants, tu dois te battre avec eux pour qui? Pas nous, hein, mais vous. Hein? Tu dois te battre avec eux pour qu'ils aillent dormir à telle heure. Ou tu dois te battre avec eux pour qu'ils prennent tel médicament. Ou tu dois te battre avec eux pour qu'ils soient polis ou je ne sais quoi d'autre encore. Alors que tout son bien, il est dedans. Ça, tu dois te battre avec lui pour qu'il aille au cours, pour qu'il aille apprendre, pour qu'il étudie, pour qu'il... Subhanallah. Quand tu lui fais faire ça, c'est son bien ou c'est son mal? C'est son bien. Naam. Mais comme lui, il lui manque une partie d'intelligence, une partie de tajroba, d'expérience et ainsi de suite, hein, et qu'il a trop de parties d'amusement et d'insouciance, eh ben, c'est la guerre avec eux. Wadah. Fala hawla wala quwwata illa billah. Alors que s'il savait, il serait satisfait. Hein, il serait satisfait de ce que tu fais pour lui. Wallah. Certaines corrections qu'on a eues quand on était petit, aujourd'hui on rigole. Hein? Aujourd'hui on rigole. Tu te rappelles quand Abi il a fait ça, tu te rappelles quand Kada, Kada. On rigole. Mais la finalité c'est quoi? Premièrement, on méritait. Deuxièmement, pour toutes les fois où on n'a pas été attrapé, même quand on méritait pas le peu, on méritait beaucoup. Vous avez compris ou pas? Pour toutes les fois où on n'a pas été attrapé, quand cette fois-ci, c'était pas nous, pour de vrai, eh ben, wallah, qu'on pouvait même pas se plaindre, parce que c'était pour les 20 fois avant, où on n'avait pas été pris. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'on a, c'était ça, notre réforme. C'est le sang de la brousse qui coule dans les veines. Il peut être réformé que comme ça, chez la plupart d'entre nous. T'as compris ou pas? Donc, lui vient de Tambacara. Tu crois que, yani, mon chéri, ça peut faire l'affaire. Ça peut pas faire l'affaire après le sang qui coule dans les veines quand c'est le sang de la brousse. Il faut un climat aride. Wadah. Il faut un climat aride. La vie, elle était dure. Wadah. Nous, on était dure. Et c'est pas, la douceur de la mère, elle suffisait pas à casser, naam, comment on appelle ça? Les blocs de glace qu'il y a dans l'Antarctique. Naam, les icebergs. Hein, il fallait de la dureté encore plus pour briser cela. Wadah. Donc aujourd'hui on dit jazakallahu khairan, qu'Allah le récompense. Naam, qu'Allah le récompense. Et si nous on a faibli, hein, et si nous on a faibli à notre époque, c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est parce que l'époque elle appelle à ça, parce que les gens sont plus faibles. Naam, et ce qui est demandé aux gens c'est encore plus faible. Et le niveau scolaire qui est demandé est encore plus faible dans tous les domaines, c'est encore plus faible. Au début, il veut que son fils soit hafid Qur'an. À la fin, il veut juste qu'il fasse salat. Hein? Au début, il veut que son épouse ce soit Fatima. À la fin, il veut juste que ce soit une femme. La hawla wa la quwwata illa billah. Les critères, les standards ont chuté. Hein? Standards ont chuté. Au début, il veut Ali ibn Abi Talib. À la fin, il veut juste qu'il l'embête pas. Wallah, c'est une époque, elle est dangereuse. Parce que les standards ont chuté. Donc, celui qui est normal, il est pointé du doigt comme si c'était le meilleur de la terre. Alors qu'il est juste normal. Et au temps des pieux prédécesseurs, il se serait dilué. Ou il aurait été critiqué. Parce qu'il arrive après l'adhan ou il y a des choses comme ça. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est une grande leçon. Al-sabr, on doit savoir ce que c'est. Al-rida, on doit savoir ce que c'est. Et on ne doit pas confondre al-rida billah anillah, le fait d'être satisfait d'Allah et de ce qu'Allah va donner aux gens du paradis. C'est deux choses. Et le fait d'être satisfait du décret d'Allah, ça c'est autre chose. L'obligation c'est le sabr, l'excellence c'est le rida, et au-dessus reste que le shukr. C'est un niveau encore plus grand. C'est de remercier Allah pour le malheur qui t'a été décrété, tellement tu connais Allah. Et tu penses à la récompense qu'il va te donner si t'es en dur. Ça c'est encore un autre niveau. Hein? C'est encore un autre niveau. T'as un malheur, tu remercies Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. C'est niveau des prophètes, c'est niveau des messagers, auliya Allah, c'est dire cool. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Donc, ça concerne quoi l'endurance? Et le fait de ne pas disputer le qadar? La pauvreté, la maladie, la peur, sur ces choses-là? Naam, tu endures, tu patientes, tu fais les causes pour en sortir. Qu'a dit Allah Azza wa Jal? Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah, wa ma yu'min billahi ahdi qalba. قال بعض السلف وعلقمة رحمه الله والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que ce ne soit par la permission d'Allah.
et celui qui croit en Allah, il guide son cœur. Que veut dire ce verset?
Il a un malheur. Celui qui croit en Allah, il guide son cœur. Ça veut dire quoi? Al-Qamar, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est la personne qui est touchée par un malheur. Il sait que ça vient d'Allah. Alors, il est satisfait et il se soumet. Qu'est-ce qui va se passer? Allah va guider son cœur. Il va réussir son épreuve.
Allah Azzajal va guider son cœur. Il va avoir l'apaisement. Allah Azzajal va guider son cœur. Il va réussir son épreuve. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Dans sourate Al-Hadid, il n'y a pas malheur qui vous touche dans, sur terre ni en vous-même sans que cela ne soit consigné dans un livre avant qu'il n'y ait eu la création. Tout cela est facile pour Allah afin que vous ne soyez pas tristes de ce qui vous touche et que vous ne tombiez pas dans la vanité pour ce qu'on vous a donné. Donc le qadar, il sert à faire quoi?
Au fait que tu te soumettes au décret d'Allah Azza wa Jal, que tu sois satisfait de ce qu'il a fait pour toi. Et quand tu as un bien, tu sais que ça vient d'Allah. Quand tu es éprouvé par un mal, tu endures parce que tu sais que ça vient d'Allah Azza wa Jal. Tayyib, je voulais finir ce passage, mais ça commence à être long et être tard. On s'arrête sur cela. Sinon, on ne va pas
finir le paragraphe. Ou bien, vous avez encore de la force, vous voulez qu'on finisse le paragraphe. Allez, on s'arrête sur cela, afin que personne ne ronfle. Allah musta'an wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.